ラブ&ピース。巨大すぎる愛に涙する。感じたことのない感動。
Bonjour à tous et bienvenue sur Estasia.fr pour notre 26e podcast qui coïncide également, plus ou moins, à notre 5e anniversaire puisque nous sommes sur la toile depuis le 27 septembre 2010. Voilà, un peu d'autocongratulation, ça ne fait jamais de mal. Alors, pour fêter et souffler nos cinq bougies, il y a bien sûr Elvire qui est là. Bonjour Elvire,
bonjour. Comment vas-tu ?
Et nous avons un user de choc qui fait sa première apparition, Elias. Salut Elias.
Bonjour.
Justin.
Bonjour.
Salut Justin, tu es là depuis le début, je me rappelle qu'un de tes premiers textes, c'était sur Satoshi Kon qui venait juste de mourir à l'ouverture du site. Et nous avons notre trio de l'étrange, Marc, Martin et Nicolas. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Je ne dis pas ça parce que vous êtes étrange, mais parce que vous avez couvert l'étrange festival qui va occuper une bonne partie de ce podcast. Mais avant ça, nous allons parler des news qui nous ont occupés ce mois-ci et qui font toujours l'actualité du cinéma asiatique. La première news pourrait pratiquement s'appeler « Il y a 5 ans » sur Estasia. Tant c'est une thématique, une nouvelle qui revient. Il s'agit déjà... Donc les news dont nous avons traité en 2010, en 2011, ce sont des nouvelles de l'adaptation hollywoodienne d'Akira. On parlait à l'époque de DiCaprio, des frères Hughes, de Zac Efron, de pas mal d'autres personnes. Et là, Zac Efron, oui, qui devait jouer Canada, ça fait rire, mais c'était une news. À l'époque, on avait appelé ça Akira, qui rira bien le dernier d'ailleurs, quand on avait parlé de ce petit jeu de mots. Donc on y croyait moyen, et là Justin, hein, est-ce que la machine est relancée, et est-ce que l'on peut croire de nouveau qu'Akira US va voir le jour ?
Alors il n'y a rien de confirmé, ça reste une grosse rumeur qui a enflé. Après, bon, Nolan, qu'on l'aime ou pas, ça sera au moins... ça
peut être. Donc la news, c'est que Christopher Nolan produirait,
voire réaliserait une trilogie adaptant Akira. Bon... Au pire, par rapport à d'autres adaptations qu'on a eues, genre Dragon Ball catastrophique, ça aurait au moins de la gueule. Après, bon, il y aura toujours à redire au niveau du contenu de l'adaptation et autres, mais malgré tout, c'est plus rassurant que les projets qu'on avait vus passer avant, à part peut-être celui des frères Hughes, où ça aurait pu être intéressant aussi.
Ouais, enfin, ils sortaient de Fromel à l'époque, c'était... Enfin... Ils ont été intéressants à une époque, les frères Hughes.
Bah, le livre d'Eli, dans le genre post-apo, c'était pas si mal. Je pense en bonne forme, ça pouvait donner quelque chose d'intéressant. Donc là, après, c'est pas du tout son univers, c'est pas du tout, même qu'on l'aime ou pas, hein, c'est pas du tout dans la veine de ce qu'il a l'habitude de faire, même en SF. Donc ça reste à.
Après, pour Christopher Nolan, c'est vrai que c'est quelqu'un qui. Je pense pas qu'il arrive non plus par hasard.
Oui, parce que c'est un fan de Japanime, Inception, il y avait l'influence de Paprika qu'il avait admis.
Il a repompé des plans entiers.
Ah, mais ils ne s'en est pas caché.
Donc au moins, c'est un univers qui peut être relativement proche de
bah, après, c'est quand même assez loin de ce qu'il peut faire. Donc...
Alors, c'est vrai que dans ce cinéma, on retrouve pas mal de thèmes en commun. Mais le problème, c'est que qui dit Nolan dit blockbuster PG-13, qui dit blockbuster PG-13 dit pas beaucoup de violence dans l'adaptation US de Akira, et donc je ne vois pas un film.
Ouais, mais ça c'est même pas Nolan, c'est que dès le départ.
Voilà, dans tous les cas, c'est une mauvaise idée. Mais si Nolan arrive sur le projet, ça confirme ça.
Oui,
c'est l'idée. L'idée, c'est de faire qu'il n'y ait pas trop de violence sur cette adaptation.
Ouais, mais je vois pas comment c'est
Nolan.
Ceci dit, même c'est Batman qui était PG-13, il y a quand même des débordements. Il arrive quand même à oser à passer quelques moments.
Entre Batman et Akira, j'ai envie de te dire.
Il n'y a pas cette rage adolescente qu'il y a dans Akira.
C'est quand même
très poli. C'est très guindé le cinéma de.
Dark Knight, les Joker, a quand même des quelques moments dérangeants.
Et la transpo finale de Akira, il y a une grande différence.
De toute façon, à partir du moment où c'est un blockbuster hollywoodien, on sait qu'on va pas avoir. Ça sera pas tel quel.
Mais je pense surtout qu'il faut pas le faire.
C'est quelque chose qu'il faut admettre de base. Quoi.
Moi, je pense surtout qu'il faut surtout pas le faire. Mais vraiment, il faut pas y toucher.
Ça, c'est un truc. Ça ne changera rien à l'œuvre, c'est toujours ce que je dis.
C'est pour avoir un film complètement aseptisé, j'en vois pas l'intérêt. Quoi. Voilà, tous les 2-3 ans, ils reviennent pour voir un peu si il y a un buzz, si ça vaut le coup de monter un projet et tout. Voilà, quoi, si on revient toujours.
C'est vrai que la chose étrange, c'est que les studios américains s'intéressent à Akira, à Ghost in the Shell. C'est-à-dire des
mais Ghost in the Shell, ça peut être intéressant, je pense.
Très difficilement adapté.
Moi, ça peut lancer à Cobra, c'est toujours pareil. Ara, il veut s'adapter. Il veut faire une adaptation de film ultra fidèle au manga, à l'anime, et personne ne veut le financer. Mmh. Et là, si Akira, ils arrivent à financer le film, ce sera forcément un truc aseptisé qui sert à rien.
Non, mais attention,
mais Cobra, c'est très européen. Ça.
Oui, ouais, non, c'est les Américains ne connaissent pas Cobra.
Ouais, heureusement.
Mais c'est parce que... Ton avis sur cette possible future adaptation d'Akira?
Ça me paraît difficilement faisable, ne serait-ce que par... je veux dire, la violence du manga en elle-même, et effectivement, ça me paraît vraiment peu concevable qu'un blockbuster puisse incorporer un tel niveau de violence dans ses films. Et après, il parle d'une trilogie. Enfin, je veux dire, le manga est quand même suffisamment dense pour pouvoir faire une trilogie, mais dans ces cas-là, je vois pas le découpage qu'ils peuvent faire et pour tenir en haleine.
Encore une fois, les Américains veulent faire des trilogies de tout, ça marche très bien. Si ça marche encore mieux, ils font deux trilogies. c'est parfait, mais.
Ouais. tu as une idée en tête, comme ça
Mais le problème, c'est ce qu'ils choisissent de. Parce que moi, j'ai rien contre une adaptation US d'un manga, mais le problème, c'est. Ils choisissent toujours des choses qui ne sont pas du tout transposables dans un contexte US. Mais... Parce que Ghost in the Shell, je pense que ça va donner quelque chose de bien. Avec un bon réalisateur qui s'y connaît du nid, ça peut vraiment. Même Cobra. Il y a eu Guardian of the Galaxy qui est un film à la Cobra. Donc il y a des choses qui sont faisables. Gunn, quand Cameron voulait le faire, ça aurait pu donner quelque chose de bien, mais ils choisissent toujours des projets qui sont vraiment pas adaptables dans un contexte blockbuster.
Justement, il peut y avoir un travail de réécriture. Là où j'ai un peu d'espoir, c'est qu'on parlait tout à l'heure de Dragon Ball, c'est-à-dire une génération de films où il y a eu Ken le survivant avant. C'est-à-dire les producteurs ne savaient pas du tout ce qu'ils avaient. Ils avaient une licence, ils adaptaient, ils faisaient n'importe quoi. Là, on a quand même changé à Hollywood. Actuellement, si c'est Nolan, c'est quelqu'un qui connaît un peu l'animation japonaise. Il y a un film qui est certes mineur au niveau de l'adaptation, mais il y a eu Edge of Tomorrow, qui est adapté d'un roman japonais qui a donné suite à un manga, puis à une série, qui a été adapté pour le public américain, pour une star hollywoodienne, comme un blockbuster avec Tom Cruise. Le travail d'adaptation marchait relativement bien. Il y a eu beaucoup de changements par rapport à l'œuvre originale. Notamment au niveau du personnage incarné par Tom Cruise, parce que c'était un véhicule pour l'acteur, mais ça fonctionnait. Pourquoi pas.
Il y a eu le film d'animation Astro aussi, qui était US, qui était plutôt correct aussi, et assez fidèle, comme quoi c'est faisable.
Elias ?
Aussi, en fait, la différence avec Akira, je trouve, c'est que, contrairement à Ghost in the Shell, qui est une œuvre qui a été plusieurs fois reprise avec la série animée, Urai, etc., Akira, on a le manga et le film. Il n'y a rien eu sur Akira depuis une trentaine d'années. Pour ça aussi, est-ce que tout le monde est un peu contre le fait quelque chose de nouveau, est-ce que ça pourrait casser le cocon d'Akira, alors que il y a plein de séries qui, je trouve, seraient plus adaptables parce que justement elles sont rabattues encore et encore, remises à jour, Alors qu'Akira, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la temporalité au final.
Dans son époque. Mais après, je reste sur cette idée qui est que de toute façon, ça ne changera rien à l'œuvre d'origine. On pourra toujours revoir le film.
Oui, bien sûr.
On pourra toujours relire l'œuvre d'Otomo. Si le film est complètement raté, on l'oubliera de toute façon comme on a oublié Dragon Ball. Hein. C'est pas... Et s'il est réussi, tant mieux. Ça fait un film intéressant. Donc à suivre. Deuxième news du jour, est-ce qu'on en parle de Jia Zhangke aux Oscars, Elvire ?
Bien sûr qu'on va en parler. Il se passe cette année la même chose que l'année dernière, finalement. La Chine, comme tout pays... est en train de sélectionner son film pour les Oscars. Et comme l'année dernière, c'est pas forcément le film qu'on attendait qui a été sélectionné. Enfin, les sélections sont pas encore officielles, mais on va pas tarder à l'être.
C'est demain. C'est demain pour
oui,
nous.
Donc en fait, c'est
le 1er octobre,
c'est bon.
En fait. Donc ça sera confirmé d'ici la mise en ligne du podcast.
Donc cette année, c'est le dernier loup de Jean-Jacques Hano qui a été sélectionné. Et Jia Zhangke, en fait, a râlé publiquement, en fait, parce que son film Mountains May Depart, lui, est passé à la trappe. Mais voilà, l'année dernière, c'était le promeneur d'oiseaux qui avait été sélectionné. Voilà les rires.
Ceci dit, ça arrive aussi.
Alors que d'autres films chinois auraient pu être aussi sélectionnés.
Après, on remarque une récurrence, Le Dernier Loup, Le Promeneur d'Oiseaux, il faut que ce soit des films réalisés par des Français avec des animaux. Je pense que le Suerc a essayé avec la montagne du tigre, mais, en plaçant un tigre pour être sélectionné aux Oscars, mais ça n'a pas
marché. Ça n'a pas marché, non, voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est un problème récurrent depuis un an, ça le sera certainement encore l'année prochaine.
Mais au niveau culturel, ça fait combien de temps déjà que la relation France-Chine a été entre guillemets officialisée au niveau du cinéma? Ça fait
là, c'est depuis, je pense que c'est depuis l'année dernière, ouais. Où tu as des cinéastes français. Alors, je me demande qui a vu Le Promeneur d'Oiseaux et Le Dernier Loup.
Il y en a qui l'ont vu.
Le Dernier Loup,
Franchement, si tu sais pas que c'est Jean-Jacques Hanon, dit que c'est un Chinois qui l'a réalisé, c'est pas scandaleux qu'il le présente.
Ouais. Mais après, j'ai l'impression
parce qu'apparemment, juste leur seul problème, c'est que ça soit un réalisateur français.
Bah, en fait, des films carte postale.
La Chine, en fait, a envie de présenter aux Oscars des films qui montrent une certaine vision de la Chine, qui n'est pas une vision chinoise, en fait, qui est une vision étrangère.
Et une vision de carte postale. Je pense que c'est plus ça.
Mais c'est la volonté de la Chine.
C'est pas tant carte postale que ça.
Mais c'est la volonté de la Chine, en fait. C'est comme ça. Donc, il n'y aura pas, à mon avis, dans les prochaines années, il n'y aura pas de Chine produit et réalisé en Chine continentale qui sera présenté aux Oscars. C'est pas dans l'intérêt de la Chine. C'est une volonté politique, bien sûr.
Oui, évidemment. La liaison, elle est culturelle, elle est politique aussi. Mmh.
C'est ça qui est un peu problématique.
Et je pense que le problème, c'est qu'il y a des politiques français qui doivent aussi influencer sur le truc, pour garder la relation entre la France et la Chine. Enfin, c'est un gagnant-gagnant, quoi. Tu vois,
c'est plutôt bien pour la France. Alors moi, j'avais entendu que la France avait choisi ses Mustangs.
Pour
représenter la France, qui est aussi un film turc.
Il y avait eu Tombouctou aussi.
Oui, mais
non. Non, mais ça commence à devenir bizarre ces films aux Oscars, je trouve.
C'est pas bon. Non, mais pourquoi pas, dans l'idée...
Et puis c'était un gros succès au box-office. En plus, Le Dernier Loup en Chine, c'était vraiment cartonné, donc de le présenter leur film.
C'est
plus
bankable. Après, Timbuktu, Mustang, la production est française, sont des films.
C'est coproduit,
Mais quand même un discours critique sur les pays qui présentent. Le problème aussi du Promeneur d'Oiseaux, Le Dernier Loup, je sais pas, mais c'est qu'ils n'ont pas ce point de vue critique. Et c'est pour ça que ça arrange très bien.
Oui, parce que les films chinois, eux, parfois.
Films chinois indépendants ou World System. Puisque le dernier ouais. Jason Kueh, enfin l'avant-dernier avait pas été avait été censuré en Chine, Touch of Sin. Donc voilà, c'est aussi compréhensible qu'il souligne quelque chose.
Le pouvoir chinois n'en veut pas, quoi.
Par contre, nous, c'est vraiment l'inverse. Parce que quand on va chercher Timbuktu ou justement Mustang, c'est plus pour dire regardez, on est sur des faits de société, on est contre l'islamisme, Daesh et tout ça. C'est politique. On a envie de dire on dresse le point, attention. C'est un peu pour se donner une espèce de fausse conscience.
Oui, c'est pas le même choix, mais c'est un choix politique.
Quand tu donnes la palme à Dipan, c'est tout à fait politique aussi.
Oui, bien sûr, totalement.
Bon, ça pue, quoi, les Oscars.
Oui, mais ça, c'est toujours le cas.
Presque, Mustang est pas mal, d'ailleurs.
Non, j'ai pas vu,
je suis très content.
C'est un bon petit film, quoi.
Donc, nous avons dit que Le Dernier Loup cartonnait au box-office chinois, ce qui nous amène à notre troisième news. Elias, puisque tu vas nous présenter la nouvelle rubrique que tu animes sur le site, qui est celle du box-office.
Ouais. En fait, donc ça va commencer vendredi dernier, ça sera tous les vendredis maintenant. En fait, donc je vais présenter le top 10 du box-office d'un pays chaque fois différent. Tous les mois, je reprends. Donc il y aura Corée, Japon, Chine, ensuite un pays qui sera différent selon les mois. Ça sera l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande. Enfin, ça changera, ça sera plutôt différent chaque mois. Donc voilà, donc je pourrais vous présenter les films qui marchent, les films qui comptent, surtout dans ces pays-là, et les tendances actuelles. Et par exemple, vous verrez qu'il y a beaucoup de films américains qui marchent au Japon, ou que ce mois-ci, enfin cette semaine-ci, La Famille Bélier était 15e film le plus vu en Corée du Sud.
Mon Dieu. Bravo. Eux aussi, ils ont des goûts de merde.
On aurait dû l'envoyer aux Oscars aussi.
Et donc voilà, donc toutes les
semaines... Mustang, il en est où?
Mustang, il est pas dans le top. Voilà. Et donc du coup, on pourra se demander comment est-ce qu'ils traduisent Sardou en Corée du Sud. Et aussi, si vous voulez savoir quels films marchent et quels films sont sûrement dans les festivals ou à voir dans les mois prochains, allez sur
la Xbox Office. C'est vrai qu'ils sont fans de Sardou encore.
Ouais,
c'est une star là-bas.
Ah voilà.
Ça explique.
Donc par exemple, cette semaine, on a vu que c'est Vétéran qui est passé donc le film le plus vu de l'année en Corée du Sud devant Assassination, qui était jusque-là le plus gros succès de l'année.
Donc deux films qu'on pourra découvrir d'ailleurs au FFCP, et on en parlera lors du prochain podcast ou actuellement sur le site, puisque Vétéran fait l'ouverture et Assassination est dans la sélection paysage. Voilà, mais dans les films que nous attendons, il y en a un tout particulier, y compris dans les festivals, qui est celui qui va faire l'ouverture du festival de Busan, et qui est assez original. Il s'appelle Color of Asia Masters. Et en fait, c'est un omnibus avec quatre courts-métrages. Le premier est d'Api Chapung, Uera Seta Cool. Le second de Kawase Naomi. Il y a aussi un film de Wong Xiaoshuai. Et le dernier est de Im Sang-soo. N'est-ce pas, Martin?
Oui, exactement. Bah, écoutez, pour l'instant, on ne peut pas en dire grand-chose, si ce n'est qu'il y a eu des bonnes annonces qu'on filtrait de chacun des courts-métrages. Et
on va voir sur le site. Là, vous pouvez la regarder.
Exactement, voilà. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire, c'est assez intriguant. Enfin, Api Chapung, c'est très aérien, c'est voilà, on est au cœur de la nature, on suit un personnage, on sait pas trop, enfin voilà, on a pas de piste pour l'instant sur la trame narrative, encore moins avec le film chinois où on voit juste la nature et une espèce de brume qui se dissipe.
Alors on a le scénario pour le film chinois. Ah. C'est l'histoire d'un enfant et d'une grand-mère abandonnés dans un village.
Voilà.
Mais dans l'extrait, par contre, on voit rien.
Nami Kawase, elle a vraiment intéressant. Lies, qui se concentre, je crois que c'est une interview d'un designer japonais, et puis on sent voilà, une relation, je ne sais pas si c'est sa femme, ses secrétaires, une espèce de jeu avec les questions et tout, et puis une espèce de point d'érotisme. Voilà, que...
Chez Naomi Kawase, donc.
Oui, exactement.
Oui,
non, mais voilà, mais Naomi Kawase est une femme, elle a des désirs, et puis voilà, elle les exprime.
Il y a déjà ce côté-là sur
Stillwater, il y a déjà, oui. Et le dernier, donc.
Ouais, c'est les corps dans la nature, mais
ouais.
C'est pas trop dans la mer aussi. Là, dans l'extrait, c'est pas trop les corps dans la nature.
Non, par contre, c'est sous la douche.
Voilà.
Voilà. Il y a toujours l'élément aquatique, voilà.
Style de water, quoi.
Ouais, exactement. Voilà. Mais, on en saura plus quand on le verra. Et puis le dernier, c'est donc le Im Sang-soo, qui a l'air assez particulier. C'est l'histoire d'un vampire et d'une noyée. Dans une morgue. Ce qui est très intéressant, c'est que la noyée, dans le plan final de la bonne annonce. Et ben, on a l'impression que c'est Wong Fei dans Chungking Express. Vous verrez, elle a la même coupe de cheveux, elle a la même forme de visage, et surtout, elle a les mêmes lunettes.
Et elle chante ?
Non, elle chante pas. Alors ça, c'est mon grand regret, j'aurais bien voulu qu'elle chante du Wong Fei.
C'est une reprise des Cranberries.
Exactement, voilà, mais bon. Mais non, c'est l'air, oui, plutôt drôle.
Donc ça sera, ouais, on va le découvrir, enfin les festivaliers, donc en Corée, pour le découvrir, l'ont découvert d'ailleurs le 1er octobre. C'est vrai que ce genre de projet, généralement, il nous parvient, enfin il arrive à, il va faire le tour des festivals, ou même il risque d'arriver en salle, donc ça a l'air assez intéressant
en fait,
tout de même.
Pour rajouter un petit détail sur ce projet, donc c'est le festival de Busan, en fait, en collaboration avec d'autres producteurs, donc, qui ont produit ces quatre courts-métrages, et l'année prochaine... Les quatre réalisateurs vont servir de mentors à quatre jeunes réalisateurs qui vont refaire le même exercice, en fait.
On a déjà les noms des réalisateurs ?
Non. Les quatre jeunes, on ne connaît pas.
Mais choisis par ces quatre-là ?
Je ne sais pas s'ils vont être choisis, mais en tout cas, ils vont être dirigés par... aidés par les quatre réalisateurs qui...
Supervisés,
voilà. C'est ça, tout à fait.
Bon, bah, très bien, bah, c'est à suivre. Nous allons maintenant ouvrir le gros dossier de ce podcast. Il y a un festival qui géographiquement est un peu plus proche que nous, qui s'est tenu à Paris au Forum des Images du 3 au 13 septembre. Il s'agit de l'Étrange Festival. Alors on va largement en parler, mais j'aimerais bien commencer par une petite question. L'année dernière, Elvire, tu avais rencontré Frédéric Tan,
oui.
qui nous faisait part un peu de sa déception face au cinéma asiatique, particulièrement coréen et japonais, qui était un peu aseptisé par rapport à ce que l'on pouvait voir. Alors, cette année, on a quand même eu pas mal de films asiatiques, et du cinéma japonais particulièrement. On a eu Sabu, Sonotion en double ration et Nakata. Alors la question ouverte, c'est est-ce que le cinéma étrange asiatique et japonais particulièrement va-t-il vraiment si mal aujourd'hui?
Moi je pense pas qu'il soit forcément rattrapé. Sonotion à l'étrange festival, il y en a tous les ans, c'est la valeur sûre. Nakata, je suis pas sûre qu'il y ait un spectateur qui ait vraiment trouvé ce film génial. Et
il y a eu Standing Ovation.
Oui, non, mais ça, il était là, donc c'est normal. Évidemment.
C'était poli, quoi.
C'est poli, c'est la politesse, quoi.
Rappelons-le pour les médias japonais, d'ailleurs.
Je suis même pas sûre que dans l'équipe de l'étrange festival, ils aient trouvé. Je sais pas, j'en ai pas parlé avec eux, mais je suis pas sûre qu'ils aient trouvé ce film-là particulièrement intéressant. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué dans la sélection, c'est qu'il y avait des films indiens. Enfin, que finalement le prisme s'était peut-être un peu décalé du Japon et de la. Enfin, un peu éloigné Japon-Corée, quoi. Même s'il y a toujours un film coréen, quelques films japonais. Là, il y a un peu plus d'Inde, il y avait un film philippin. Je suis pas sûre que le cinéma aille mieux.
À propos du film indien, d'ailleurs, il y en a un qui vous a particulièrement plu, je crois.
Il y en a deux. Enfin, déjà pour commencer, Sunrise, qui est vraiment un thriller assez crépusculaire où on suit un personnage qui est un flic qui a perdu sa fille et qui enquête sur disparition, et en parallèle on suit une jeune fille qui a été enlevée et se retrouve en traînée de force dans la prostitution enfantine et faut bien savoir déjà d'une part, Sunrise est une coproduction avec la France. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle.
Il y a Nourad Kachiap dans la prod ou c'était un autre qui l'a produit ou c'était Sunrise.
Je sais plus si c'est NH10 ou.
Ouais, c'est NH10.
Donc c'est pour ça aussi qu'il arrive à traiter certains sujets assez tabous, en Inde, de manière, on va dire un peu caricatural de certaines façons, mais en tout cas il met les pieds dans le plat et puis surtout c'est un film atmosphérique, mais vraiment parce que c'est on sent le personnage glisser vers la folie et c'est pas du tout une image de l'Inde carpostale. Ça se passe pendant un mousson, il y a une pluie battante à chaque fois, c'est souvent des scènes qui se passent de nuit. Et puis, t'as toutes ces scènes nocturnes, d'errance nocturne, où il retrouve cette espèce de porte rouge, qui a une espèce de spectacle avec les jeunes filles d'un bordel. Donc, il y a presque une influence un peu lynchienne dedans, voilà. Et non, c'est vraiment très très bien. Et puis, l'autre film, on en parlera.
Je voulais juste rajouter, en fait, ça m'a fait vraiment penser, c'est vraiment atmosphérique, ça m'a fait vraiment penser, ça fait un peu penser à Nourad Kachiap dans les thèmes, dans les thématiques, notamment à Ugly, mais sauf que c'est rien à voir, ça s'est pas du tout pris, c'est pour ça que j'ai bien aimé le film, contrairement à Ugly, c'est que c'est pas du tout pris de la même façon, il y a un espèce de côté fantasmagorique, limite on sent que le fantastique est jamais loin, c'est très spécial quand on lance, ça m'a fait un peu, tout le monde n'est pas fan, mais ça m'a un peu fait penser à Nicolas Winding-Refn dans la façon d'utiliser la lumière, les décors.
Les gros chromos.
Les trucs fluorescents. Puis l'utilisation de la pluie aussi. Non, franchement, moi j'ai vraiment bien aimé aussi. Ça me fait même penser un peu, c'est pareil, un peu penser au premier film de Ryan Gosling aussi, dans ce côté un peu. Les monstres sont pas très loin, quoi. Le côté conte cauchemardesque. Et donc c'est. Voilà, quoi. Après, je sais que tout le monde n'est pas fan, donc.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, sinon, le deuxième gros morceau, enfin, en tout cas pour nous, de l'étrange festival, ça a été Baobali.
Le film de clôture.
Le film de clôture. Là, vraiment, c'était l'espèce de gros gâteau qui arrivait, l'énorme friandise, quoi. C'est ma stock, hein. Mais alors quel plaisir, quoi. C'est le Seigneur des Anneaux version Curie, quoi. Sauce Curie, c'est absolument grandiose, quoi.
Ça me donne pas trop envie, comme ça.
J'aime
le Seigneur des Anneaux, c'est un peu indigeste, mais en plus, c'est un Sauce Curie.
Personnellement, je n'ai pas
du tout. Je comprends comme rajouter des chansons.
Oui, voilà. Non, mais voilà,
non, mais ça a l'air d'être très très épique.
Il y en a pas tant que ça, il y en a surtout dans la première partie.
Voilà. Mais enfin, c'est là, de toute façon, on a vu le montage.
Vous avez vu quel type de montage du coup?
On a vu le montage international, donc qui dure 30 minutes de moins. Et apparemment, il y a deux chansons en moins.
Dans 30 minutes.
Voilà. Donc, ce que je regrette, parce que paraît-il qu'il y en a une, c'est un énorme tube en Inde, et j'aurais bien aimé. Voilà. Mais oui, mais on vient voir pour ça. Je veux dire, c'est super kitsch. C'est un machisme primaire. Faut le dire ce qu'il y a, parce que la relation avec le héros et la, jeune, la belle Amazon, c'est ouais, homme, toi, femme, et hop, ça y s'aime. Hein.
C'est tellement exagéré qu'au final, c'est. Faut prendre le second degré, quoi.
Le type, à chaque fois qu'il sort de l'eau, c'est une pub pour Tahiti Louche, quoi. voilà,
ça
mais
a l'air génial,
c'est juste les batailles, elles sont épiques. Elles pourtant, ils n'ont pas le budget, ça sent des fois sur les effets de sang, notamment. Mm. Voilà, c'est pas le Seigneur des Anneaux, mais putain, les idées de mise en scène dans les batailles, elles sont incroyables. Quoi. Même moi, qui suis pas du tout fan de ce genre de truc, je pensais voir un truc super kitsch. À la fin, j'ai dit, ah ouais, quand même.
Moi, je veux la suite, mais j'en peux plus, quoi. Voilà.
Bon, bah l'année prochaine, on veut la suite et on veut les versions intégrales et les 30 minutes de chansons qui ont été
Je la trouverai.
Ce sera peut-être le film de clôture l'année prochaine.
Mais on espère tous. En tout cas, tous ceux qui l'ont vu n'ont qu'une seule attente, c'est de pouvoir le revoir. Quoi.
Il y avait encore deux films indiens. Donc c'était NH10, donc produit par Akasha, donc qui n'est pas exceptionnel.
Qui avait l'air bien sympathique.
C'est un genre de... le film avec... j'ai plus le titre en tête, le film avec Michael Fassbender et Kelly Reilly où le couple se fait pourchasser par des...
Eden Lake.
Voilà, oui, Eden Lake, où j'ai un trou. Et c'est exact, enfin c'est quasiment la même histoire, quoi. C'est un couple qui part faire une virée et qui se retrouve dans l'arrière-pays indien où il y a encore les vieilles coutumes avec les familles ennemies et puis les deux enfants. C'est un peu Roméo et Juliette, en fait. Encore dans notre époque, quoi, avec un couple de deux familles différentes ennemies qui s'aiment, et l'autre couple, qui sont les héros de l'histoire, tombe sur ce couple-là qui sont tabassés par les frères et machin, et donc ils s'en mêlent, et à partir de là, eux aussi vont rentrer dans la machine et ils vont se faire poursuivre, et voilà, ça va se transformer en Eden Lake. Donc voilà, c'est un peu du pompage de ce genre de film-là. C'est assez efficace, mais c'est bon, voilà quoi, ça se voit une fois, c'est pas non plus. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin, je pense. Tu l'as vu, Marc?
Non.
Et donc, le dernier film, c'était Ludo, qui était une purge absolue, donc on ne va pas y passer. Voilà, si vous tombez sur Ludo, film indien, ne le voyez surtout pas.
C'était au cinéma, ça avait l'air bien.
Ah, c'était nul à chier.
Ouais, me tentait bien aussi, ouais, finalement. Bah...
C'est indescriptible, c'est-à-dire, ça part comme un espèce de film d'horreur, l'Armée des Morts.
Justement, ça me tentait bien, ça.
C'est de l'Armée des Morts, mais du. En dessous du pauvre, tu vois. Ils sont dans un centre commercial. Les deux garçons, les deux filles qui essayent de séduire un chien. Et puis à un moment, il y a un couple de vieux qui arrive dans le centre commercial. J'ai l'impression que c'est deux clochards. En fait, c'est deux vampires qui ont je sais pas combien d'années. Et après, alors, voilà, t'as ça. Donc ils attaquent les quatre jeunes. Et là, moitié du film, pouf, ça coupe, flashback. Et ils racontent pendant toute la deuxième partie l'histoire des vieux vampires, tu vois. Alors avec des images dégueulasses, tu vois. Enfin, tu vois rien, c'est mal fichu, c'est horrible. Franchement, j'ai souffert. Mais...
D'accord.
Enfin, voilà, je vous le conseille pas.
Je vois. Alors, comme on est dans les mauvais films, voilà, un des... Malheureusement ou heureusement, parce qu'on était très contents de le rencontrer et de le voir, c'est quelqu'un qui a fait des grands films, Ring, Darkwater notamment, des films assez sympathiques, mais plus mineurs. C'était donc la présentation, lors de cette édition de l'Étrange Festival, de Ghost Theater, en avant-première mondiale, en présence d'Hideo Nakata et de son actrice. On l'avait laissé la dernière fois à Deauville, il y a 2 ans, avec Monsters, qui déjà nous avait laissé un peu froid, un peu désolé pour son cinéma. Et on espérait avec Ghost Theater le retour de Nakata au genre, d'ailleurs, le d'horreur qui l'a fait connaître. Marc, est-ce que c'était le cas pour toi avec ce film?
Retour, oui et non. Disons que moi, je serais plus nuancé que les critiques qui ont défoncé le film. Je pense que c'est un film qui est quand même, honnêtement, disons-le, assez moyen, même très moyen. Mais par rapport à une calamité comme Monsters, je pense que Nakata est quand même revenu dans le jeu et qu'il a quand même assis sa... son truc quoi dans le film de d'épouvante et je ce qui se passe c'est que le film ne fonctionne pas parce que le film ne fait pas peur, donc c'est pas un film d'épouvante. Mais ce qui est intéressant à noter dans le film, qui est quand même assez raté, disons-le, c'est le côté européen du film qui a un petit peu giallo, un petit peu italien, un petit peu.
Tu peux nous dire de quoi ça parle justement pour qu'on se
rende
en même temps dans l'histoire.
C'est l'histoire de. Disons que c'est une sorte d'adaptation d'un de ses premiers films qui était sorti en 96 sur.
Ghost Theater,
ouais.
Ghost Actress,
qui parlait du tournage d'un film et sur le tournage du film, il y avait des réminiscences de fantômes qui apparaissaient parce qu'il y avait un tournage qui s'était passé dans les années 70, etc., etc. Et Nakata reprend cette même mise en abîme dans Ghost Theater, mais
de poupées russes,
absolument. Mais là, dans ce film-là, il refait un petit peu le coup que Miike avait fait dans un de ses récents films.
Over Your Dead Body,
qui était très chiant, mais très beau esthétiquement.
Et très beau, mais très chiant.
Et là, c'est un peu la même chose avec Nakata, c'est que il reprend en fait c'est cette même esthétique que Miike avait repris pour Over Your Dead Body, c'est-à-dire qu'il filme les coulisses et les répétitions d'une scène de théâtre, mais avec des lumières super criardes, super chiadées, qui font justement ressembler à des films de Dario Argento. Et dans ces répétitions de théâtre, il y a une sorte de poupée qui apparaît, qui est une poupée figurante, mais cette poupée est animée de... on va dire d'une certaine animosité à l'encontre des actrices qui sont fort belles d'ailleurs. Et du coup, il se passe une sorte de, enfin la poupée se met à désinguer un peu tout le monde, ce qui n'alarme d'ailleurs pas le metteur en scène qui a l'air complètement amorphe. Et la police elle-même n'a pas l'air de s'intéresser à ces cas de
assez flegmatique.
La police sur le coup là, elle est pas trop efficace. Et donc ça met en scène justement cette chose là, c'est-à-dire la poupée qui désigne tout le monde dans la pièce de théâtre et justement les actrices, parce que il y a quasiment pas de masculin dans ce film. C'est très féminin. Et donc il y a une des actrices qui est dans le groupe de J-pop AKB 48. C'est donc un de ses premiers rôles, qui s'en sort pas si mal, mais enfin le film est un peu fait pour elle.
Le film est un peu fait pour elle. Il faut bien savoir, c'est que le film a été produit par le créateur d'AKB48, qui avait déjà produit le précédent
Complexe,
voilà. Et suite au succès, voilà, ils ont décidé de réitérer la chose. Et ils ont proposé à Nakata d'écrire un nouveau film. Et ils ont casté tous les membres d'AKB48. Et puis voilà, ils ont choisi la moins mauvaise. La petite Shimazaki Haruka, bon, elle est charmante comme tout. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que les scènes qu'elle a le plus travaillées, parce que dans l'interview, elle racontait que... les scènes de répétition théâtrale, elle les a vraiment travaillées en amont avec quelqu'un qui l'a fait répéter. Donc là-dessus, elle est vraiment impeccable. Et c'était les scènes les plus complexes. Par contre, les scènes où elle est juste dirigée sur le plateau, on a l'impression qu'elle ne sait pas du tout quoi faire. Et la pauvre, elle est vraiment perdue.
C'est un peu dramatique parce que c'est Nakata qui la dirige sur ces scènes-là, mais ouais. Pas sur les scènes de répétition. Donc oui. Il a engagé un metteur en scène de théâtre. Oui. Donc ça veut dire qu'il... Pour le coup, je ne pense pas qu'il s'intéresse beaucoup aux acteurs ou que le projet le passionne des masses.
Non.
Et que donc, il essaye de trouver quelque chose d'autre. Quand Marc, tu parlais des influences européennes, il faut dire aussi que la pièce qu'il adapte est une adaptation de l'histoire de la
Comtesse
sanglante. Et effectivement, on trouve à la fois ses influences dans l'éclairage italien du giallo, par la Comtesse Bathory qui a été aussi adaptée par la Hammer par exemple, c'était Comtesse Dracula. Donc voilà, il y a ces influences très européennes de la Hammer, Donc l'Angleterre d'un côté, l'Italie de l'autre. Et j'ai l'impression qu'ils s'amusent plus sur des petites scènes, sur des petites références, à mettre tel éclairage comme ça qui va rappeler tel film, telle ambiance des années 60 et 70. Et le reste, ils s'en foutent complètement. Et c'est là où c'est le problème, parce que nous, on s'ennuie. Quelques références
Mais de toute façon, il le dit souvent dans les interviews. Hein. D'une part, il en a marre de faire des films d'horreur. Après, on lui demande parce que c'est ce qui l'a rendu célèbre. Et il a apporté une contribution quand même importante à ce genre-là. Il en a marre. Donc, il est très cinéphile. Donc, maintenant, il cherche en effet à développer des esthétiques, choses comme ça. Mais je pense que l'histoire en elle-même, le film est très cynique. Hein.
En fait, il y a une chose qui me déroge un peu, c'est que tout le monde crache sur ce film, qui n'est pas un bon film du tout. Hein. Je ne vais pas le défendre ni rien. Mais en fait, c'est que je trouve qu'il y a une chose que beaucoup de gens. Enfin, après, c'est peut-être pas du fait que je ne suis pas fan de ce film ni rien. Mais je trouve que. On enlève la poupée méchante qui est ridicule et qui casse totalement l'ambiance du film. À la place, on met un méchant plutôt correct, un méchant bien fait, enfin un esprit qu'on voit pas ou juste une présence un peu angoissante. Et on a un film de J-horror moyen plus.
Certainement.
En fait, il y a un problème dans ce film, je trouve, c'est la poupée.
En même temps, c'est le personnage le plus important du film.
Il a quand même loupé son film. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, on critique Nakata qui a fait juste faire. Enfin, c'est un horrible comme erreur, hein. Mais qui a fait une erreur incroyable et qui a un film correct et gâché par une seule erreur.
La big erreur.
C'est une énorme erreur.
Et quand tu vois le climax,
il est ridicule.
Mais vraiment, c'est
en termes de mise en scène. Tu fais même avec Sadako à la place de la poupée, t'as un film de J-horror.
Oui, parce que ça fait que le film ne fait pas peur en fait.
Il a loupé le côté horreur. Le problème, c'est que l'ambiance n'est pas assez développée pour que ça fasse aussi un film atmosphérique. Donc c'est rien en fait.
C'est l'illusion.
Entre les deux, voilà.
L'introduction, moi, je trouve que c'est vraiment c'est ce qui a le plus réussi. C'est-à-dire que il te place tout de suite le contexte et puis surtout, t'as vraiment une ambiance, en effet, très. Très emprunté à l'horreur gothique italienne. Et on ne sait pas trop, en gros, quand on voit cette première séquence, si c'est un rêve, si c'est peut-être un film, tu vois. On attend de voir la mise en abîme. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'est la réalité. Et la scène qui suit juste après, on voit, comment dire, alors pour le coup, c'est vraiment un cadre hyper réaliste, une scène de crime au bord d'une rivière, un cadavre. Le cadavre, c'est l'héroïne principale, donc c'est comme la première fois qu'on voit l'héroïne des KB48, Shimazaki Haruka, elle est morte, et le flic est en train de dire aux parents, on va retrouver le machin. Et hop, on voit qu'il hésite et on se rend compte que c'est une scène de tournage et Haruka Shimazaki souffle la réplique au flic. Donc il y a une espèce de jeu justement de perception de la réalité qui est vraiment passionnante. Après,
c'est-à-dire
10 minutes. Voilà.
C'est un peu le problème du film, c'est-à-dire qu'il lance cette piste, c'est la piste Wes Craven, le côté méta, Scream, Freddy 6, mais ça marche pas.
Parce qu'il il
en fait rien.
Le côté de J-horreur, ça marche pas non plus, comme tu l'as dit, Elias, à cause de la poupée. Il y aurait un côté qui peut être intéressant parce qu'il prend une membre
de KB48,
tout à fait. J'écoute ça tous les matins en verant. Il montre un groupe d'actrices qui se tirent dans les pattes pour avoir le rôle principal. Donc, il pourrait y avoir un petit côté olaboutif, comme ça, avec des actrices, un metteur en scène un peu machiavélique, qui essaye de faire leur trou dans le monde du cinéma. Mais ça aussi, ils s'en désintéressent assez rapidement. Donc, finalement, c'est pas non plus abouti. Et on a l'impression qu'il n'y a rien qui intéresse Nakata lui-même dans son propos, dans son film. Et donc, le film est effectivement assez faible.
Il intervient juste en tant que faiseur, c'est ça.
Il y a un manque de souffle narratif qui est flagrant, quoi. Enfin, quand on arrive à l'heure de film, on se doute déjà de ce qui va se passer parce que tout se déroule comme si finalement il n'y avait aucun climax, il n'y avait aucune rupture dans le ton, et en fait tout se déroule.
Alors ils font un peu comme Maureen, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher l'origine de la malédiction de la poupée en faisant un voyage, donc il y a une scène de pré-générique d'ailleurs, donc qui explique ça, donc ils vont à la source. comme dans, voilà, comme dans beaucoup de films, mais ça non plus, ça marche pas très bien. Donc on va passer à un autre cinéaste.
La fin est quand même très nulle.
Moi,
j'ai toujours pas compris la façon dont ils ont battu la poupée, quoi. C'est-à-dire que,
et pourquoi est-ce qu'elle revient dans le tournage
Mais j'ai pas compris. Mais sinon, dans la rigueur,
ils veulent en faire un deuxième, c'est voilà. Tout.
Ça va être bien.
Mais j'ai pas compris. Là, le moment où il la fout dans la cage, il la monte et il la laisse tomber sur la poupée. C'est-à-dire qu'il voulait tuer l'actrice en même temps. j'ai pas compris cette scène.
Je pense
scène,
que personne n'a vraiment réfléchi à cette scène.
Voilà.
Comme les autres.
En fait, ils cherchaient à nous endormir.
Et quand la poupée
réapparaît... Ah bah, il s'est bien endormi, là.
Dans la rivière. La fin, j'ai pas d'idée, on fait ça, il dort, pas de soucis.
Bah, moi, c'est un peu ça, je me rappelle pas trop de la fin, je pense, parce que j'étais bien endormi.
Alors, contrairement à Nakata, qui nous a un petit peu déçus, un autre cinéaste que l'on retrouve... tous les ans, effectivement, à l'étrange festival, mais aussi dans d'autres festivals, un autre cinéaste japonais, c'est Sono Sion, qui lui était là avec deux des cinq ou six films, ou sept films qu'il va faire cette année. Tagin et Love and Peace. Est-ce que Sono Sion s'affirme comme actuellement l'un des cinéastes les plus inventifs et intéressants, en tout cas du cinéma japonais?
Bah, en tout cas, il fait le cinéma japonais avec tout seul en ce moment.
Ouais,
tout à fait. Voilà, ne serait-ce que par la richesse esthétique de son œuvre, et surtout, enfin, déjà les deux qu'on a pu voir à l'étrange festival donnent quand même deux facettes de sa personnalité. C'est-à-dire que d'un côté, bon, on est sur un peu une espèce de redite de comment dire de Suicide Club, enfin en tout cas un film.
Alors, Tag, on va présenter un peu les films.
Voilà, il y a Tag et Love and Peace. Tag, le premier, commence par une ouverture assez spectaculaire, voilà, on n'en dit pas plus, mais qui renvoie forcément au.
Alors, effectivement, on va éviter de spoiler, surtout pour Tag.
Non, mais je dis rien.
C'est extrêmement intéressant, et en plus, le film sera à Kinotayo, donc on aura l'occasion d'en parler et de les revoir.
Non, mais t'inquiète pas, je fais pas de bruit. Voilà. et donc le film, on peut dire, comme l'avait présenté Frédéric Tan, se présente un peu comme un épisode de la quatrième dimension. Sans en dire plus, voilà, c'est une réalité qui cache quelque chose. Mais voilà, en tout cas, pour faire un rapide sur Tag, il y a un discours derrière qui est vraiment hyper intéressant, enfin un sous-texte et qui en fait pour moi un très bon film féministe.
Voilà. Un brûlot féministe,
voilà. Pour le coup, voilà, on trouvera encore des ex des AKB48 dans le film, voilà, mais qui jouent bien. Elles sont partout aujourd'hui.
Il faut
le dire. Elles sont bien dirigées. Et puis voilà, c'est un film avec un rythme haletant, qui joue vachement sur les codes du shoujo, mais qui va les détourner, et puis qui renvoie comme une espèce de miroir déformant les fantasmes des otaku, quoi. Et qui les met face à leur propre démon. Donc voilà, ça, c'est vraiment un film passionnant, quoi.
Et à côté de ça, il y a le conte de Noël et la comédie musicale Love and Peace.
Ah oui, qui est formidable.
Un peu moins haletant, justement.
Bah, moi, je le trouve très intéressant. Enfin, déjà, on comprend mieux quand on voit Love and Peace que Babe 2 est l'un des films favoris de.
Alors, on comprend là, enfin.
Enfin, on comprend pourquoi.
Babe 2,
voilà. Mais j'adore Babe
2. Mais on voyait pas trop l'influence dans ces films-là.
Oui, voilà. Mais là, voilà, c'est en tout cas tout y est. Et puis, il y a un côté très très naïf, enfantin, mais. Qui est toujours légèrement contrebalancé.
Bien cynique.
Oui, voilà.
Et même si la fin est quand même. Il y a le côté. Il y a le côté cynique, mais il y a quand même ça finit quand même en apothéose.
Oui.
Il y a quelqu'un qui joue le plus mignon, quand même, qu'on ait juste vu.
J'ai trouvé très touchant, moi, ce film, en fait.
Mais très touchant, mais.
J'ai trouvé très mignon. Alors, parfois, un peu trop. Lièvre par moment dans le côté conte de Noël, mais il est très touchant.
Ouais. Après le voilà, il y a par exemple un Père Noël ou des jeux cassés, mais le Père Noël dans les égouts de Tokyo est alcoolique.
Oui, voilà. Ouais. Donc bon, c'est quand même
mignon et lièvre.
C'est toujours le décalage quoi avec la figure de base et il en fait toujours quelque chose à lui quoi. Il s'approprie toutes les figures, il est punk.
Il est punk, voilà. Mais c'est
très intéressant.
Et puis bon, c'est sa critique aussi de la comment dire, de l'industrie musicale. Enfin, il a déjà fait avec Tokyo Tribe, hein, donc voilà, il y avait déjà tout un discours dans Tokyo Tribe, je sais pas si vous vous souvenez, la famille de Yakuza, qui est un peu la majors, comment dire, de disques qui qui sort de la soupe, en vérité, et qui se nourrit de manière assez concrète, finalement, des adolescents. Quoi.
C'était un concours de beat, en plus.
En plus, voilà.
De base,
voilà,
vraiment. Pour...
Voilà. Là, c'est un petit peu différent, mais ça commence avec un groupe de punk qui, finalement, rentre dans le système et commence à faire de la J-pop ultra mielleuse.
C'est-à-dire, dans l'industrie musicale, est vraiment très réussi dans le film. Oui, oui. Alors, c'est un truc qui m'a le plus plu. Dans...
L'acteur est absolument formidable. Cette transformation.
Le même acteur que celui qui joue le réalisateur dans What Did You Pay in Hell, qui était absolument génial, déjà.
Oui, c'est lui.
Il y a un petit côté aussi qui est assez intéressant dans le détournement de Contes de Noël, c'est que le film finalement me fait penser un petit peu à Gremlins de Joe Dante, où justement il détourne le Conte de Noël pour en faire quelque chose de complètement subversif.
Ah oui, ben, exactement. Ouais.
Enfin, après, ce qui est subversif, c'est le. C'est le côté justement musical, je trouve qu'il y a justement très peu de subversion, enfin, à part la coulisse du Père Noël et les bonbons, je ne sais pas trop ce que c'est, de cette partie-là, sinon je le trouve vraiment très mièvre justement, et je trouve que ça s'éloigne peut-être un peu trop à mon goût de ce que je m'attends quand je vais voir un film sans notion, cette période dans les égouts sur le cocon de Noël.
Il y a quand même des petites longueurs, des choses comme ça. Il aurait pu resserrer un peu son récit.
C'est imparfait, comme d'hab.
Oui, bon, c'est rien. Voilà, tu resserres de 20 minutes. Voilà, le film,
c'est surtout la partie dans les égouts, en fait. Une fois que tu as découvert un peu l'univers qu'il a essayé de développer là, il y revient à peu près. C'est pas forcément très
bien. Il faut pas oublier quand même qu'il en fait 7 dans l'année des films.
6-7 000.
Oui, voilà. Oui. Enfin, pour quelqu'un qui fait autant de films, il les réussit quand même super bien.
Ah oui, rien à dire.
C'est vraiment un Mickey, par exemple.
Oui,
ça perd de l'en faisait 4-5, il y en avait 3 qui étaient à chier. Donc,
là, c'est quand même.
Là, quand même, le niveau est quand même.
Le niveau est super élevé.
Oui, mais c'est un meilleur cinéaste là-dessus.
Et puis, je répète, il y a une tortue qui chante.
Oui, voilà.
D'ailleurs, je devais faire un petit reproche au film, c'est de m'avoir remis en tête la chanson de Why Don't You PNL. Que j'avais essayé d'oublier pendant des mois. Et
j'adore. J'adore. J'étais mort d'ailleurs quand j'ai entendu les
concerts. Il la chante.
Mais la bande originale est extrêmement réussie.
Oui,
j'ai toujours en tête. Ça marque vraiment.
Pour la peine, vous l'aurez très certainement en générique du podcast.
Mais je préfère la première version de la chanson où il chante Picadon.
Je suis d'accord. Ça, c'est assez formidable parce qu'il chante une chanson Picadon. Qui est sur l'amour atomique. Oui, en fait, une productrice dit c'est génial, il nous faut ça parce que c'est une chanson, à texte, c'est un texte contestataire. Et la première chose qu'elle fait dès que c'est marketé, elle va changer toute référence qui peut être un peu subversive et mettre Love and Peace.
Oui. Et en fait, il faut bien savoir, c'est que lui, quand il chante la chanson de Picadon, il chante pour cette tortue
qu'il avait balancée dans les toilettes. Il est triste.
Donc voilà, il y a toujours un côté, personne ne comprend l'autre, mais voilà.
Alors justement, on a parlé de Takashi Miike, on va peut-être faire une conclusion sur l'Étrange Festival. Bon, on avait déjà parlé de Yakuza Apocalypse, c'est vrai que j'avais oublié qu'il était aussi à l'Étrange, mais donc Miike était là avec Yakuza Apocalypse, qui est plutôt, à mon sens, un de ses films les plus réussis depuis, depuis 9 ans, 10 ans.
Non, je dirais pas, il a fait comme d'autres choses intéressantes depuis, mais... Bon, en tout cas, il essaye de revenir sur certains thèmes, l'impression que voilà, il cherche à retrouver l'énergie, l'aider dans le live et tout ça. Mais le problème, c'est que, entre-temps, il est devenu papa. Faut dire ce qu'il est, et il a plus cette espèce de perversité qu'il y avait dans ses films et qui dynamitait tout. Il y a des idées folles, et vraiment des très belles idées folles. C'est quoi ton foutraque? Il fait des choix de mise en scène qui sont assez intéressants, qui vont un peu à contre-temps de ce qu'on attend de ce genre de film. C'est-à-dire que le film qui était passé au pif l'année dernière commençait de manière absolument épileptique.
C'était quel film
Je ne me souviens plus. le flic infiltré chez Yakuza avec une espèce de grand couple blond là.
Ah oui, merde. Je sais plus.
Oui, bon, voilà. on oublie. Mais il était assez rigolo, il faut dire. Et là, finalement, c'est très posé en termes de mise en scène. C'est vraiment, c'est beaucoup de plans séquences. Il laisse beaucoup de respiration dans le jeu des acteurs et tout. On retrouve Lily Franchi, acteur fétiche de Cruella, qui joue un yakuza vampire assez débonnaire, quoi, qui prend soin de ses citoyens. Enfin, le mec super sympa et tout. Enfin, c'est Lily Franchi, quoi. Et puis après, ça part en sucette totale.
Dès que le personnage de l'homme grenouille apparaît.
Voilà. Donc
là,
voilà.
Ça part vraiment là.
Parce que là, il y a une grenouille après.
Oui.
Là. Oui. Il y a des grenouilles. Il y a un kappa. Il y a un canyon géant avec des mitrailleuses. Enfin, bon,
c'est pour ça qu'on retrouve effectivement Dead or Alive. Après, dans Dead or Alive, il y avait ce côté effectivement pervers. Parce que moi, je me souviens en premier, dans un tournage de film porno, et puis un chien qui sort et on se rend compte. En fait, il y a la zoophilie partout. Ouais. Et c'est ça que tu retiens comme détail dans Dead or Alive au-delà de ça. Là, on retrouve de la folie, mais c'est une folie plus, plus aseptisée. Un peu,
par contre, j'ai beaucoup aimé, en gros, l'espèce de réflexion qu'ils font sur les Yakuza. En fait, ils te disent que les Yakuza, ce sont des gens qui se nourrissent, finalement, des honnêtes gens qui sont endettés et tout ça, qui prennent de l'argent après qu'ils vont rançonner. Et ils disent, en gros, les vrais vampires de la société japonaise, ce sont deux. Voilà, et ils se retrouvent, face à des vampires, c'est-à-dire que tous les honnêtes gens sont contaminés et deviennent des vampires yakuza, et il faut qu'ils trouvent, en gros, un moyen pour survivre, de trouver de nouveaux honnêtes gens, donc ils pensent les cultiver. Et il y a une scène complètement folle, ils mettent en terre des graines et ils cultivent pour qu'il y ait des honnêtes gens qui sortent de terre. Voilà, et là-dessus, c'est vraiment.
C'est des à la con.
C'est des idées à la con qui.
Mais qui marche voilà. Bien. Marc, je crois que t'étais un peu plus mitigé sur. En tant que fan de Takashi Miike, si t'avais moins.
Effectivement, quand j'avais vu le film, en fait, j'avais surtout eu un grand ennui. Parce que le film dure très longtemps, il doit durer 2h10, quelque chose comme ça. Et je pense qu'amputé de 30 minutes, ça pourrait vraiment être meilleur.
Ce genre de film,
meilleur.
Il faut que ce soit peut-être plus condensé.
Et justement, quand je regardais le film, il y avait des éclairs de génie de Miike, mais qui étaient contrebalancés par ce côté soporifique du film, où au bout d'un moment, en fait, tu t'ennuies, et tout ce qui est blague ou action, finalement, tu commences à l'oublier, et du coup, tu ne l'apprécies plus beaucoup. Parce que t'es dans ta léthargie totale où tu dis mais merde, qu'est-ce qui se passe, j'ai envie de partir.
C'est aussi un film comme comme Sushi Typhoon, comme d'autres films de Miike, à voir sur grand écran, peut-être dans une salle très enthousiaste, avec un esprit ou avoir entre potes et pas avoir tout seul devant son écran. Donc ne le téléchargez pas.
Moi qui l'ai vu dans une salle, je l'ai trouvé trop long. Et effectivement, les dernières scènes avec notamment un combat
qui est génial,
mais moi je l'ai trouvé chiant à mourir parce que j'avais déjà 2 heures de film devant moi et j'ai pas su apprécier en fait. Une demi-heure de moins, ça aurait été nickel.
Comment prendre son public à contre-pied quoi.
Et du coup, on passe devant les bonnes scènes.
Alors on va avoir une petite conclusion sur l'étrange festival. Asie, hors Asie, Elias, si vous voulez dire.
Il y avait Samu aussi.
Là, il y avait Gangnam Blues aussi, il y avait la Corée.
On
va
quand même parler de.
Mais c'est pour ça, j'avais une carte blanche pour dire Asie, hors Asie. Si chacun d'entre vous qui avait découvert, suivi l'étrange,
vous devez choisir un film qui vous a plu, une pépite. Donc Elias.
Ah, c'est une pépite seulement. Dans ce cas, j'ai pas parlé d'un film asiatique alors que je vais parler de Nina Forever. Qui est un film anglais, qui est une comédie horrifique anglaise que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Enfin, après c'est le fait que j'aime beaucoup tout ce qui est humour anglais, un peu potache, un peu comme ça. Et en fait c'est une comédie en gros, c'est un mec qui sort avec une fille et en gros dès qu'ils couchent ensemble il y a le cadavre, le zombie, le revenant, il y a sa copine d'avant qui est morte dans l'accident de voiture qui revient les hanter et qui du coup en fait les regarde et simplement parle avec eux comme si elle était une sorte de plan à trois très pervers, sans rien, juste elle les regarde tout d'un coup couvert de sang avec des bras en moins. Et c'est...
Oui, il faut qu'il rechange les draps à chaque fois.
Parce qu'elle arrive et elle fout du sang partout. Et c'est un film qui m'a fait rire en fait. Enfin, c'est pas que rire parce que c'est un film qui a beaucoup de choses, mais c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Les acteurs sont plutôt bons, le ton est très anglais, c'est un film très anglais, donc si vous êtes cherché à l'humour anglais, n'allez pas voir ce film.
Oui, mais c'est bien foutu, parce que ça aurait pu être un film très glauque, parce que vraiment, ça fait vraiment plan à trois la plupart du temps. Et c'est très bien foutu ouais. parce que c'est drôle en fait.
Donc c'est un premier film, mais je trouve que les réels sont vraiment à suivre parce que c'est un
très bon film. Tu nous rappelles le titre ?
Nina Forever.
Nicolas.
Donc un film, une pépite Asie et pas Asie ou juste une pépite ?
Une pépite à l'étrange cette année, voilà ton coup de cœur.
Comme on a parlé des films asiatiques, on va parler de... il y en a deux. Je sais qu'il y en a une qui ne m'a pas plu à Martin parce qu'elle a détesté le film, c'est Turbo Kid. Donc c'est un film, une espèce de revival des années 80, genre de Mad Max, où dans un monde post-apocalyptique où il n'y a plus d'essence, plus d'électricité, plus rien, donc ils sont tous en BMX. Donc c'est des, voilà, on suit un jeune héros qui rencontre une héroïne, et son espèce de monde sauvage où l'eau est rançonnée et donc qui est dirigée par un espèce de grand parrain. Donc la trame est classique, mais je veux dire, moi j'ai adoré l'univers qui était dépeint, ça m'a rappelé les films des années 80 avec la BO qui est absolument géniale. Et voilà, j'ai vraiment pris mon pied à me plonger dans cet univers.
Turbo Kid, c'est quelle nationalité ?
Turbo Kid, c'est canadien, c'est québécois. Canadien. En fait, c'est adapté d'un court-métrage qui était sorti déjà il y a un ou deux ans par les mêmes réalisateurs. Et vraiment, moi, j'ai vraiment adoré. Quoi.
Et deuxième film,
c'est Moonwalkers. Donc Moonwalkers, c'est un film anglais réalisé par un Français. Donc c'est le premier film. Ah, j'ai piqué ton film, je suis désolé. Bah, tu peux en parler. C'est un film anglais, premier film réalisé par un Français, donc je ne sais plus le nom du réalisateur, je sais pas si
c'est Prix du public à l'étrange aussi.
Prix du public, moi c'est sûr, moi j'avais dit tout de suite ça va être le prix du public vu comment la salle était réceptive. Et c'est vraiment, moi j'étais à mourir de rire du début à la fin. Bah, déjà le casting, t'as Ron Perlman, donc déjà Ron Perlman, quoi. C'est genre le mec qui joue le bourrin de façon fantastique dès que tu le prends second degré. T'as Robert Sheehan qui est le Nathan de Misfits, donc je sais pas si vous connaissez la série, qui est juste. L'acteur est génial et dans le film il est absolument génial. Et il y a le Rupert Grint, donc t'es pas très fan de.
Si, j'ai vu. Misfits, les deux premières saisons dans
lesquelles. Non, Misfits, c'est lui qui fait Misfits, quoi, on est d'accord. Donc le troisième c'est Rupert Grint, donc Ron Weasley dans la fameuse saga Harry Potter. Et donc le film est hilarant, ça parle de, en fait c'est le gouvernement anglais qui veut au cas où la mission Apollo 11, non américain pardon, qui veut au cas où la mission Apollo 11 échouait faire un film où ils font une espèce de reconstitution d'alunissage. Comme ça, et donc il demande à Ron Perlman, qui est un ex-agent de la CIA, de contacter Stanley Kubrick pour pouvoir faire le film, parce que lui, il vient de faire 2001, donc forcément, voilà. Et donc, ils vont voir un des agents qui est en contact avec Stanley Kubrick, sauf qu'il y a une espèce de quiproquo, qui fait qu'à ce moment-là, c'est le personnage de Rupert Grint qui est contacté, et donc il va se faire passer pour l'agent de Stanley Kubrick, et à partir de là, ça va partir dans un délire total, en faisant croire Ron Perlman, qui lui, complètement... il a des espèces, il revient du Vietnam, il a des hallucinations tout le temps, il pète la gueule à tout le monde, et donc il va faire croire, il va l'embarquer dans une espèce de trip dans les années, donc c'est plus dans les années 70 que ça se passe, ou 60, début des années 70, dans la période hippie, donc avec drogue, rock'n'roll et tout pareil, donc ça part dans un délire absolument monstrueux. C'est vraiment hilarant de A à Z.
Il y a une sortie française qui est,
oui, début 2016, en janvier 2016, c'est franchement cool à voir parce que c'est vraiment génial.
Le titre, tu me rappelles ?
Moonwalkers.
Martin,
deux films dont il faudrait reparler un petit peu. Donc il y a, comment dire, le dernier Sabu qui s'appelle Chazukeze. Journée. Qui est un film assez mignon, il faut dire ce qu'il est. Quoi. Voilà. Ça raconte l'histoire d'un serveur de thé dans l'au-delà. Il faut bien savoir, dans l'au-delà, il y a des anges qui écrivent sur des parchemins nos dessins, si vous voulez. Et donc, le divin donne des fois des indications littéraires, on va dire. Et ce qui fait que ça va faire enrayer la machine, quelque peu, et le destin d'une jeune femme va être... risque de mourir un peu de manière abrupte. Et donc ce jeune homme va aller sur Terre pour empêcher justement qu'elle meure accidentellement. Et finalement, il va se trouver une autre mission, rectifier les erreurs de script de les gens qui naissent avec des maladies incurables, des choses comme ça et tout, il va les guérir. Donc voilà, et puis à côté de ça, t'as une jolie romance. Bon. Et c'est un film vraiment assez sous influence, c'est-à-dire qu'on, c'est vraiment c'est Sabu qui a vu le Shining Express. C'est-à-dire que ça se passe dans une galerie marchande, quasiment tout le film. Il y a beaucoup de références cinématographiques qui se donnent à cœur joie.
Et notamment, d'ailleurs, la sœur, c'est ça, la sœur qui arrive à un moment, je sais plus, avec des lunettes.
Oui, oui, voilà, c'est Lynch, Brigitte Lynch, ouais, c'est dans, ça, comment dire, le Shining Express, quoi. Ouais, elle est habillée pareil, elle a perruque blonde et tout ça.
Il l'avait déjà fait dans.
Dans Boss Man 12 aussi, ouais. Exactement, t'as la tueuse qui est exactement habillée pareil aussi.
Ouais, voilà, donc c'est donc très influencé. Et puis bon, même dans les gimmicks, les mises en scène, voilà, les effets de filet, les couleurs très, très pop et tout ça, c'est vraiment voilà, c'est un joli petit film, très agréable à voir, quoi.
Et sinon, c'est peut-être un peu trop long dans la troisième partie. Parce que
oui, ça commence un peu à se répéter, ça se répète. Et pourtant, il y a le personnage de la sœur qui, quand elle débarque, est assez marrant. Quoi. Et il y a toujours des petites scénettes à chaque fois qu'il raconte l'histoire des personnages principaux. Là, c'est toujours des histoires complètement abracadabrantes et racontées avec beaucoup d'humour. C'est très truculent, quoi. Donc voilà, c'est vraiment l'un des petits films du festival qui était un feel good movie.
Belle pastille.
Et voilà, une belle pastille, ça fait toujours plaisir à voir. Et l'autre film, c'était Kafne, enfin le film de Kafne.
Comment dire, Calvette de la Cruz.
Hein ?
Non ?
Non, non, non. Le film, comment il s'appelle ? Christopher Doyle, la photo là.
Ah oui, le film philippin, là.
Exactement.
Oui, c'est Calvette de la Cruz.
C'est ça.
Oui. Voilà, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est le Reinhardt, qui est un film assez déconcertant. On a l'impression que c'est un énorme clip. Enfin, c'est un énorme clip, parce que c'est la musique est signée de Stereo Total. Ça raconte une histoire de gangster avec un gangster qui est amoureux d'une jeune femme. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va filmer en fait, tous les temps morts. C'est-à-dire que. et tous les, vraiment, les moments dramatiques sont hors champ, sont complètement ellipsés. Voilà. Après, il y a une espèce d'ambiance qui forcément rappelle un peu mon travail parce que c'est mon chef opérateur qui est derrière. Mais le problème avec Christopher Doyle, c'est que.
Décidément, il faut qu'on refasse un film, parce que là, il est cité partout.
Oui,
l'acteur principal,
c'est Tadano Bassano, qui est vraiment très bon, comme toujours, hyper charismatique. Mais le problème de Doyle, c'est qu'il est souvent bourré sur les tables de plateau, quoi. Et du coup, bah.
C'est pas récent.
Voilà.
T'as l'impression, des fois, c'est un montage de rush, en fait, plus que d'un montage fini, quoi. T'as l'impression qu'ils ont mis tout ce qu'ils avaient, en fait. De à peu près, potable, pas potable.
Voilà, en plus, des plans, avec de la GoPro en shaky cam, ultra stroboscopique. Ça te pète un peu le crâne. Et puis, il y a des plans qui sont absolument incroyables, des fois. Tu dis, la façon qu'il va jouer, les ambulances avec les petits néons et tout ça. Tu retrouves le grand Doyle, et puis le lendemain, t'as l'impression qu'il écoute, moi, la ramasse. Il s'est pris une grosse cuite la veille, et voilà.
Tu nous rappelles le titre du film ?
C'est Reinhardt.
Il y a un sous-titre, mais il est trop long.
Oui, voilà.
Après, il faut dire qu'avec Calvette de la Cruz, le type, il a dû commencer le cinéma il y a 10 ans. Il a déjà fait plus de 100 films, donc...
Ah oui, c'est ce qu'il avait dit, le présentateur.
Il tourne souvent en DV. Il tourne beaucoup, beaucoup. Il fait à la fois des clips, à la fois des films. Et c'est vrai que son cinéma est assez particulier et qu'il peut sembler très brouillon par intermittence, mais qui est quand même à voir. Il y a des trucs pas mal.
Stereo Total, le groupe en VT qui fait toutes les chansons du film, en gros, c'est un groupe qu'on appelle Big in Japan. C'est-à-dire que dans leur pays, ils ne fonctionnent pas du tout. Par contre, au Japon, en Asie, ils cartonnent. Et ils avaient déjà fait la BO d'une comédie musicale qui était Underwater Love. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
Underwater
Love. Qui est une comédie musicale érotique avec un kappa. Donc les choses improbables, improbables, et c'est très très bien. Donc voilà.
Elvire, ton oui. coup de cœur de l'étrange. Alors, festival avant, 2015.
Avant de parler de coup de cœur, je vais juste dire un mot sur un des films coréens qu'on n'a pas encore nommé, qui est un film asiatique, oui. qu'on n'a pas nommé, donc coréen, Gangnam Blues, qui n'est pas forcément le film que j'ai préféré dans la sélection, mais bon...
On a tous lu ta critique.
Ou pas. Mais voilà, on ne l'a pas encore nommé pendant le podcast, donc c'est une histoire de règlement de compte entre mafias, en fait, comme souvent dans les films coréens. Mais il est bien foutu, donc pourquoi pas avoir, mais je pense qu'il sortira pas. Mais bon, on sait jamais.
Ma question c'est, est-ce qu'il aurait peut-être mieux fallu qu'il le sorte à Cellule Hypnotique? Parce que je crois, que, je l'ai pas encore vu, mais c'est quand même un film qui, de gangster qui se passe à la création du quartier de Gangnam.
C'est ça.
Donc voilà.
Et... Oui, bah, je pense qu'il y a eu une négociation aussi entre l'Étrange Festival et Cellule Hypnotique, et je pense que l'Étrange voulait un film coréen, parce que je crois que... oui, c'est le seul, et apparemment, il n'y avait rien de bon à se mettre sous la dent. Donc, je pense
on en parlera le mois prochain.
Oui, voilà. Voilà. Par contre, mon petit coup de cœur, c'est un film hongrois, Free Fall, qui est vraiment une petite pépite donc, d'un réalisateur dont je ne me rappelle plus, Palfi, je crois, Georgi Palfi,
oui,
qui a fait Taxidermie notamment.
Et Hic.
Voilà. Et donc, Free Fall, comment résumer c'est compliqué à résumer. En gros, on suit un vieux couple, enfin, un vieux couple dans un immeuble en fait, en Hongrie. Et la femme a trouvé une solution très simple pour descendre de son étage élevé, elle saute par la fenêtre. Elle ne meurt pas, tout va bien. Mais en fait, dans sa chute, elle passe devant donc, les autres étages et on suit ce qui se passe dans les appartements. Et à chaque fois, c'est du délire en fait.
Et puis après elle remonte et c'est pareil.
Voilà, enfin et pour le coup c'est un film vraiment étrange qui colle très bien avec la programmation du festival.
La BO qui est signée à Amon Tobin qui est absolument.
Voilà, enfin voilà, c'est la BO est super, le scénario est complètement fou, la réalisation aussi. Je sais même pas trop comment résumer en fait.
Non, mais c'est un peu les Monty Python finalement hongrois quoi. Ouais. Sauf qu'il est tout seul. voilà. Mais donc c'est une suite de scénettes. Alors après c'est toujours inégal. Hein. Il y en a certaines qu'on retient plus que d'autres, mais il y a toujours une espèce de grain de folie dedans qui est assez inédit quoi. Enfin voilà. Je pense qu'il faut même pas dire.
Il faut même pas dévoiler en fait.
Dévoiler parce que c'est à chaque fois c'est.
Voilà. C'est la surprise. C'est ce qu'on attend. On se dit allez, on voit une porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte.
Et même si on sait qu'il va nous emmener, c'est le plaisir de voir la façon qu'il va. La mécanique en vérité de cette folie quoi.
Donc là c'était vraiment un coup de cœur et je pense que malheureusement on risque pas de le revoir de sitôt sur grand écran.
C'est dommage.
Et ce qui est vraiment dommage. Oui.
Alors moi je vais conclure en parlant de mon coup de cœur, mais on le connaît déjà comme ça fait déjà à peu près 5 ans depuis la création d'Istasia que j'en parle. C'était le plaisir de redécouvrir sur grand écran l'aiguille de Rachid Nougmanoff. Donc qui en plus, on aura l'occasion d'en reparler puisque le film donc qui est un film kazakh de la fin des années 80, donc 88, 87, 88 ou 89, je ne sais plus exactement, donc soviétique, tout à fait va sortir édité en DVD par nos amis d'Inculte, donc
chez Badlands.
Chez Badlands, voilà.
Cool.
C'est l'équipe d'Inculte. Très bonne nouvelle. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est un film qui à cette époque montrait qu'une liberté telle que celle qu'on avait pu voir dans les différentes nouvelles vagues de tous les pays était encore possible dans des pays comme le Kazakhstan et qui avait cette ouverture et c'est porté par Victor Tsoï donc qui était alors une espèce de star éphémère parce qu'il est mort très jeune mais qu'on pourrait comparer à un James Dean ou un Jim Morrison mélangé avec Kurt Cobain mais en version soviétique. Donc c'est le seul film dans lequel il a joué parce qu'il est mort quelques temps après la sortie du film, mais il y a toute une mythologie qui s'est créée autour du personnage qui l'incarne et donc qui était assez proche de ce qu'il fait. Et le film est assez irracontable, enfin on peut pas vraiment le résumer. Voilà, c'est ça, c'est des moments d'expérimentation, de liberté formelle, une musique qui s'inscrit dans l'époque et en même temps ça part dans tous les sens et c'est extrêmement on a vraiment une impression de d'un film qui ose tout au moment où il est fait. C'est un
très bon film et très belle musique. Libère,
et la musique est formidable. Ouais, la musique de Victor Tsoï et du groupe, ouais, du groupe Kino, donc qui reste largement. Donc voilà. Mais je pense qu'on en reparlera lors de son édition DVD. Voilà, donc bah, globalement, c'était quand même plutôt un bon festival, hein, l'étranger 2015, qui,
c'est souvent un bon truc,
qui annonce une bonne année.
Disons qu'il y avait plus de purges, mais aussi plus de bons films. On n'en a pas parlé, mais au-delà de Ludo, il y avait aussi quatre autres films qui étaient vraiment des purges absolues.
Oh là oui.
Il y en a plusieurs, ouais.
Donc Dark Vélo notamment.
Sur un festival, de toute façon, il y a toujours des bons films.
Ouais, c'est un film de 70 minutes qui est complètement ralenti déjà, avec que de la musique. Alors que c'est supposé parler du silence, tu vois.
Très bien. Voilà quoi.